Saviez-vous que le leader mondial de la protonthérapie pour le traitement du cancer était une entreprise belge basée à Louvain-la-Neuve ? Je parle évidemment d'IBA, la firme technologique créée il y a 37 ans. À l'origine, elle comptait seulement une vingtaine d'employés. Aujourd'hui, la multinationale emploie plus de 1600 personnes et a déjà traité plus de 100 000 patients dans le monde entier. Notre invité dans ce nouvel épisode de Once Upon a Business connaît IBA sur le bout des doigts puisqu'elle y travaille depuis près de 20 ans à des postes différents. J'accueille aujourd'hui Soumya Chandramouli, la CFO d'IBA. Avec elle, nous reviendrons sur l'année exceptionnelle que fut 2022 pour IBA avec d'énormes contrats signés en Europe et aux États-Unis. Elle nous parlera aussi des défis financiers qu'elle a pu rencontrer et surmonter en tant que directrice financière. Bienvenue sur Once Upon a Business, le podcast qui explore les stratégies business et les retours d'expérience des experts financiers. Je m'appelle Laurie et j'anime cet épisode pour Once Upon a Business, un podcast créé par Emasphere, plateforme SaaS de reporting pour les financiers. Avec ce podcast, nous vous proposons un condensé des parcours de femmes et d'hommes qui osent, apprentissage, conseils et même morale de leur histoire. Si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez tout. Bonjour Soumya.
Bonjour Laurie.
Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui donc sur ce podcast Once Upon a Business. Donc déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. On commence toujours un épisode par demander à notre invité de se décrire. En quelques mots, Soumya, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nos auditrices ?
Bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Soumya. Je suis Chief Financial Officer d'IBA. Je suis mariée, j'ai deux enfants. Je vis en Belgique depuis un certain temps, mais je suis indienne. Et j'ai commencé ma carrière, en fait, comme beaucoup de personnes sortant de finance, dans un grand cabinet de conseil, un peu par hasard. Et puis, quelques années plus tard, j'ai rejoint IBA. Et voilà, 19 ans plus tard, je suis toujours là.
Est-ce que tu peux décrire un peu IBA en termes de secteur d'activité, de chiffres ?
Oui, alors IBA, en effet, c'est le leader mondial des applications liées aux accélérateurs de particules. Avec quatre grandes applications, nous produisons des machines qui sont utilisées, en effet, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour traiter des patients pour le cancer avec nos équipements de protonthérapie. Ensuite, nous avons aussi des machines qui sont utilisées pour produire du matériel utilisé dans le diagnostic du cancer. On a aussi des équipements qui sont utilisés pour des activités industrielles, notamment la stérilisation. C'est un secteur qui est en forte croissance. Et dernièrement, on produit aussi des équipements qui sont utilisés pour l'assurance qualité, pour s'assurer que ces équipements qui émettent de la radiation soient bien calibrés pour ne pas sortir trop de doses vers un patient, par exemple. Alors, IBA est là depuis 35 ans. On a grandi pas mal ces dernières années. On est aujourd'hui 1800 collaborateurs même pour l'année dernière.
Belle précision.
Et on continue à avoir une belle perspective de croissance avec ce qui s'est passé les deux, trois dernières années.
Super, belle précision. Est-ce que tu peux quand même préciser en termes de chiffres ce que représente IBA ?
Oui, bien sûr. Alors, en 2021, IBA, c'était un peu plus de 300 millions de chiffres d'affaires. On est répartis sur les 5 continents. On a environ une quarantaine de pays où on est actif aujourd'hui. Nous avons plus de 100 millions de cash aujourd'hui qui nous permettent de continuer à investir dans notre croissance. Et surtout, nous avons un backlog, c'est-à-dire des contrats signés qui doivent être délivrés sur les prochaines années de plus d'un milliard d'euros, ce qui nous donne aussi une très grande visibilité sur notre chiffre d'affaires futur.
Ce sont donc en effet des chiffres très, très impressionnants. J'aimerais également rebondir sur le fait que tu es chez IBA depuis 19 ans, pendant lesquels tu as occupé pas moins de 5 jobs différents avant de devenir finalement CFO. J'aimerais savoir, Soumya, comment tu es devenue CFO d'IBA. Est-ce que c'est quelque chose que tu ambitionnais depuis toujours ? Est-ce que tu peux nous décrire les étapes majeures de ton parcours ?
Oui, alors quand j'ai quitté le cabinet de conseil où je me trouvais depuis quelques années, j'ai atterri chez IBA. C'était une petite société, somme toute, à cette époque-là. Tout le monde se connaissait. Chaque contrat qu'on gagnait se fêtait autour d'un verre avec tous les collègues. Il y avait une ambiance assez familiale, proche. Heureusement, avec la croissance et l'évolution de la société, on a réussi à continuer à avoir cette ambiance assez proche l'un de l'autre. Moi, j'ai commencé dans une petite équipe. On n'était pas beaucoup à l'époque en finance. Petit à petit, ça a grandi. J'ai en effet eu plusieurs rôles en partant de la consolidation, donc vraiment un rôle en reporting, vers des rôles un peu plus tournés vers le business. Et puis au final, avant de devenir CFO, j'étais responsable controlling et finance pour à peu près 80% du chiffre d'affaires d'IBA, la partie accélérateur d'IBA. Est-ce que j'ai toujours ambitionné d'être CFO ? Non, pas spécialement. Je pense que petite, je voulais être vétérinaire. rien à voir, mais peut-être comme beaucoup de petites filles en fait, qui voyaient des petits chiens mignons. Je pense que par la force des choses, j'ai adoré le boulot que je faisais chez IBA. Il y avait toujours un challenge, il y avait toujours des choses qui changeaient, des choses à apprendre. Et au final, la transition vers un rôle de CFO et donc passer d'un rôle très opérationnel à un rôle beaucoup plus stratégique semblait assez naturel dans l'évolution de ma carrière. Et donc, quand finalement on m'a proposé ce rôle-ci chez IBA, c'était avec un grand plaisir que j'ai accepté. Et ça fait bientôt 6 ans que je suis CFO d'IBA.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est finalement, qu'est-ce qui t'avait motivé personnellement à rester pendant près de 20 ans dans une même entreprise? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ben en fait, j'ai jamais envie de partir de cette société? Parce que c'est quand on en a parlé en off, je t'ai dit, voilà, aujourd'hui, donc on a les millennials, la génération Z, qui dès que voilà, on ne se plaît plus dans une entreprise, voilà, dès que l'entreprise ne correspond plus à nos valeurs, ben on change d'entreprise après 2 ans, peut-être maximum 5 ans. Mais ici, 19 ans quand même, c'est vraiment c'est impressionnant comme parcours. Donc, on a envie de savoir qu'est-ce qui a fait qu'IBA était si addictif finalement.
C'est vrai que les offres, il y en a toujours. Hein. On est toujours appelé, parfois aussi attiré par ce qui se passe ailleurs. Maintenant, je dois dire, quand j'ai décidé de quitter le monde du conseil et d'arriver chez IBA, IBA avait pas mal de difficultés financières. Je me souviens d'un collègue qui m'a dit « Ah, tu vas aller chez IBA ?» Je pensais que tu avais de l'ambition. Alors, j'ai prouvé que malgré son commentaire, les choses se sont passées différemment. Je crois qu'en fait, ce qui a été passionnant chez IBA les 20 dernières années, c'est qu'il y avait toujours quelque chose de nouveau. D'abord, c'est une société qui est très attachante, qui a de fortes valeurs. Tu parlais de valeurs. Je pense que c'est justement ce qui attire vraiment les jeunes aujourd'hui à venir travailler chez IBA. Ce sont nos valeurs, notre mission. Ensuite, je crois que, comme je disais personnellement, j'ai toujours eu un nouveau défi, les choses ont changé, j'ai pris un nouveau rôle, il y avait la taille de la société qui changeait, de nouvelles aventures dans de nouveaux pays, de nouveaux produits, de nouvelles lignes de business. Et donc, à chaque fois, il y avait quelque chose de nouveau. Et donc, en fait, je n'ai jamais eu besoin d'aller chercher ailleurs les choses qui me manquaient, puisqu'il n'y avait jamais de répétition, jamais d'ennui dans l'activité. Et je crois que ça, couplé à cette mission, à ces valeurs de la société et aux gens, parce que je pense que chez IBA, notre ressource la plus précieuse, ce sont nos gens. C'est ce qui m'a encore gardée chez IBA et continue à me passionner aujourd'hui.
En effet, ben on comprend bien tout ça. Je vais passer à un autre sujet maintenant. Donc, l'année 2022 a été une année très, très riche pour IBA. J'ai lu dans la presse qu'IBA avait connu une croissance significative des prises de commandes Industrial Solutions, donc, qui ont franchi le cap des 100 millions d'euros en 2022. Est-ce que tu peux nous résumer un peu tout ça et nous raconter en quoi ça a impacté ton travail de CFO?
Oui, alors en effet, c'est une année assez trépidante parce que c'est l'année où on aura probablement eu la plus grosse prise de commande de l'histoire d'IBA. Ça veut aussi dire évidemment beaucoup de challenges pour les années à venir parce qu'il va falloir produire toutes ces machines, les installer, s'occuper de leur maintenance, leur service et s'assurer que tout ça est fait avec la qualité habituelle d'IBA et dans le bon timing. Donc clairement, c'est un défi pour tout le monde dans l'organisation. Alors, au niveau de la finance, c'est clair qu'en tant que CFO, mon rôle, c'est vraiment d'assurer non seulement le suivi opérationnel de tous ces défis et donc assurer évidemment le bon déroulement d'un point de vue finance de l'activité d'IBA, mais aussi d'un point de vue stratégique, voir ce qu'on va pouvoir faire pour continuer dans cette croissance, accompagner les différentes business lines dans leur croissance et les aider à pouvoir se développer comme il faut. Je travaille avec une équipe formidable, spécialisée chacun dans son domaine et ensemble, nous réfléchissons à tous les défis qu'IBA a à faire face avec cette croissance et comment on va les adresser. Et donc, quotidiennement, en fait, nous faisons face à une série de défis. Parfois, ça peut être très petit, ça peut être la gestion d'un client qui ne paye pas, ou alors ça peut être très stratégique, comment est-ce qu'on va investir le cash qu'on a aujourd'hui dans la société. Et toutes ces questions, on essaie de les adresser ensemble pour trouver des réponses qui puissent vraiment convenir aux besoins de nos différents business lines.
Super. Donc, je vais passer à un autre sujet financier. De gros contrats ont été signés en 2022 chez IBA. Je pense notamment au méga contrat de 200 millions d'euros en Espagne ou encore du dernier contrat de l'année 2022, conclu avec l'hôpital Moffitt à Tampa, en Floride. Soumya, peux-tu un peu m'expliquer comment ils s'inscrivent dans la stratégie globale de croissance d'IBA?
Alors, c'est génial parce qu'on voit vraiment que ça a été une année fantastique pour IBA dans toutes ses business lines, mais en particulier, comme tu le dis ici, en protonthérapie. En fait, on a signé notamment un très gros contrat en Espagne pour 10 centres de protonthérapie. Enfin, c'est 9 centres, 10 salles de protonthérapie qui vont être installées dans les prochaines années un peu partout en Espagne. Je pense que pour la protonthérapie, c'est vraiment la première fois qu'on a une aussi grande commande qui se fait dans un seul pays. Parce que ça veut dire qu'en fait, on va équiper l'entièreté du pays avec la technologie de la protonthérapie pour pouvoir traiter encore plus de patients. C'est vraiment un signe, je pense, qui peut changer pas mal de choses, notamment en Europe, où les remboursements liés au traitement en protonthérapie influencent très fort le nombre de patients qui ont accès à cette technologie. Donc, je pense vraiment que ça peut être un vrai game changer dans la protonthérapie. Thérapie pour l'Europe. Alors, au-delà de ça, bien sûr, ça a de gros impacts pour IBA. Comme je le disais tout à l'heure, on doit assurer la production, l'installation et l'opération de toutes ces machines-ci. Et donc, on est aussi en train de s'équiper au niveau de notre organisation pour le faire, avec une augmentation de nos ressources en production, de nos ressources de support, et bien sûr, des personnes qui vont vraiment travailler sur place pour pouvoir construire, installer et maintenir ces machines. Tout un défi.
Oui, en effet, c'est un beau défi en tout cas. Alors, IBA fait partie des 5 actions belges les plus ciblées en ce début d'année par les vendeurs à découvert. Donc ça, je l'ai lu dans l'Écho en janvier 2023, ici tout récemment. Donc ce sont des investisseurs qui parient à la baisse. Est-ce que tu peux nous dire comment IBA compte faire face à la pression exercée par ces vendeurs à découvert donc sur son action?
Honnêtement, au quotidien, je ne me soucie pas de ce qui se passe du côté des shorteurs. Pourquoi ? Parce que notre mission chez IBA, c'est en ligne avec nos valeurs de fournir des solutions qui sauvent des vies aujourd'hui et demain et de faire notre travail au mieux qu'on peut chacun de nos collaborateurs chez IBA. Et donc, l'impact que cette activité peut avoir sur l'action doit à un moment ou l'autre être positive. Les shorteurs qui parient à la baisse en effet de l'action parient sur le fait qu'il y aura des mauvaises nouvelles quelque part. Mais heureusement, je pense qu'on est plutôt sur une autre dynamique aujourd'hui et j'espère qu'on va pouvoir prouver à toutes ces personnes qu'ils ont tort de jouer avec notre action de cette façon-là.
Oui, tout à fait. Donc en fait, le fait que la société soit cotée en bourse n'a pas vraiment d'impact direct sur ton métier de directrice financière.
Bien sûr, ça a un impact parce qu'en tant que CFO, je suis aussi responsable des relations investisseurs. Chez IBA, nous sommes engagés envers toutes nos parties prenantes, que ce soit la planète d'abord, que ce soit nos patients et nos clients, que ce soit la société en tant que telle, nos employés bien sûr, mais aussi nos actionnaires. Ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver une compatibilité entre IBA et de ses actionnaires. Je crois qu'on a les actionnaires qu'on mérite et mon travail est aussi de faire connaître de mieux en mieux les valeurs et la mission d'IBA envers le marché financier pour que les actionnaires qui comprennent et qui se sentent concernés par notre mission investissent dans la société. Je pense que de cette façon, on peut vraiment trouver un très bon fit entre les valeurs d'IBA et les investisseurs qui viennent soutenir la société.
Mais on espère que ce podcast donc, sera l'occasion de mettre une fois de plus en lumière toutes les valeurs et, voilà, d'IBA. Et je voudrais quand même passer une question qui mentionne un petit peu plus les défis financiers que tu aurais pu rencontrer en tant que directrice financière d'IBA, parce que tout s'est très très bien passé au cours des derniers mois. Est-ce qu'il y a finalement quand même peut-être des défis que tu aurais eu à surmonter ces derniers mois ou ces dernières années, puisque ça fait quand même de très longues années que tu es chez IBA?
Depuis que je suis CFO, oui, je pense, en fait, je le disais, c'est la première année où je me sens un petit peu plus à l'aise dans le sens où je respire bien, tout se passe bien. Sinon, chaque année, il y a eu des défis quand même de taille. Je crois que chaque défi est un moment d'apprentissage. On a eu, par exemple, des années un peu difficiles où on était en perte. C'était difficile pour le marché financier, mais c'était aussi difficile pour nos employés en interne qui donnaient leur tout pour la société et voyaient que malgré ça, il y avait des difficultés liées à la conjoncture, à une série de complexités de marché. Je pense qu'à ce moment-là, le rôle de la finance était d'assurer un soutien à l'organisation pour pouvoir monitorer les coûts, par exemple, de s'assurer qu'on avait suffisamment de cash pour faire tout ce qu'on devait faire dans la société et assurer la continuité de la société. Ensuite, il y a eu des années où ça allait mieux, mais alors il fallait négocier un peu avec tout le monde. Il y a les banquiers, il y a les fournisseurs, il faut recréer une certaine confiance. Donc là aussi, le rôle de la finance est assez important. Et aujourd'hui, on est en effet dans une bien meilleure position encore. Et je crois que j'ai une certaine fierté qu'avec l'équipe, on a réussi à mener à bien la société à travers ses hauts et ses bas ces dernières années.
Mais en tout cas, c'est super. Soumya, on passe déjà aux dernières questions du podcast. Ce sont des questions un peu traditionnelles que l'on pose à chaque épisode. Donc, tous les invités y ont eu droit. La première, c'est qui considères-tu comme le mentor de ton histoire ?
Je pense pas que j'ai une personne spécifiquement que je peux considérer comme mentor tout au long, mais clairement, j'ai été inspirée par une série de personnes. Il y a certainement mon ancien boss qui était le CFO d'IBA à l'époque. On avait une relation assez complice professionnellement où on ne devait pas se dire ce qu'il fallait faire pour que ce soit fait. Et donc ça permettait vraiment de créer une très bonne relation de travail. Et certainement sa façon de fonctionner m'a pas mal influencée. Sur un autre plan, c'était certainement mon père. C'était quelqu'un qui était très différent de moi en termes de personnalité, très posé, très intérieur, qui parlait peu, mais pensait beaucoup. Et je pense qu'à chaque moment où j'avais besoin d'un avis, d'un conseil, avoir son avis était très important pour moi, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle.
Est-ce que tu as une potion magique ou une botte secrète dans ta vie de tous les jours, Soumya?
Bonne question. Je crois que c'est rester positif, rester zen et sourire beaucoup parce que la vie nous jette pas mal de choses à la figure et donc il faut faire face à tout ça et autant sourire, ça aide.
Je suis bien d'accord et je pense la même chose. Dernière question, quelle est la morale de ton histoire ?
Je disais au début de ce podcast que je suis indienne. La philosophie hindoue est très préoccupée par la condition humaine, d'où on vient, où on va, mais surtout ce qu'on vient faire sur cette terre. Et donc je pense que si j'ai un adage que j'ai beaucoup retenu, c'est « fais ce que tu as à faire et ne te préoccupe pas du fruit de tes actions, ça viendra tout seul ». Et donc si je traduis ça plus simplement, je pense que c'est vraiment « suis ton cœur ».
Ben c'est très très joli et c'est une très jolie note de fin. Merci Soumya pour cette discussion tout à fait passionnante. Donc voilà, merci d'avoir accepté notre invitation et je te dis à bientôt.
C'était un plaisir, à bientôt Laurie.
Once Upon a Business est une production Emasphère, solution SaaS d'analyse et de prévision pour financiers. Pour nous aider à faire grandir le podcast et continuer d'inviter des profils inspirants, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute et suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer de nos contenus inédits.